Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Дамы и господа, mesdames et messieurs, donc j'ai une annonce à faire. Donc je voudrais faire quelques annonces. Nous avons déjà 25 minutes de retard et nous avons 14 intervenants après la pause déjeuner. Cela veut dire que nous devrons suivre la procédure 10 minutes maximum pour chaque intervenant. Donc, et je vais contrôler le respect de cette norme d'une façon assez sévère. Deuxièmement, nous allons avoir une pause café aux 16h, à 16h, parce que le café, c'est le plus important dans la vie. Et après le déjeuner, donc après la pause, nous allons continuer les interventions. Donc uniquement les rapporteurs qui se sont enregistrés. C'est uniquement eux qui auront la possibilité d'intervenir, de prendre parole. Donc maintenant, je vais passer en russe en tant que modérateur. Donc nous ouvrons la deuxième réunion de notre conférence. Et avec un grand plaisir, je donne la parole à M. Osman Moudavi, président du comité des affaires internationales du Parlement du Soudan. À vous la parole.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération de Russie pour l'aimable invitation de participer à cette conférence et je remercie surtout M. Margelov, grâce à qui cette conférence a lieu. Je voudrais également remercier tous les participants pour avoir trouvé la possibilité de venir à Moscou pour participer à cette réunion. Donc, après tant de rapports, après tant de rapporteurs qui ont parlé très en détail sur de différents problèmes et sur la situation à Soudan, donc il reste peu à ajouter à ce qui vient déjà d'être dit. Mais moi, je voudrais vous parler d'une idée. Le Soudan est très désireux de régler tous ses problèmes de caractère différent. Donc, et l'accord de la paix universelle doit être considéré en tant qu'une étape importante dans le processus du règlement pacifique. Parfois, les parties essentielles des négociations ont travaillé pendant 9 mois en vue de conclure cet accord universel de paix. Donc, à Soudan, il était très important de parcourir ce chemin supplémentaire afin d'atteindre l'accord en faveur de la paix. Et compte tenu de tout cela, il est très important de trouver une possibilité de continuer le travail pour qu'il n'y ait pas de nouvelle vague de violence. Mais quand même, justement, c'est cela qui a eu lieu. Et si l'on prend l'accord qui a été signé à Nairobi, et après la réunion à Oslo, où nous avons eu de nouvelles espérances sur la réconciliation entre le Nord et le Sud. Après tout cela, les masses médias du monde entier ont commencé une campagne de médias qu'on n'a jamais vue. Au moment où, dans les autres régions, il y a eu des problèmes bien pires. Cela a eu lieu en même temps avec l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan. Et à ce moment-là, le Darfour est devenu, en un délai très bref, cela est devenu la catastrophe humanitaire la plus atroce dans le monde. Plusieurs ont essayé de détourner l'attention de cette catastrophe terrible. En fait, c'était un jeu de chiffres concernant le conflit à Darfour. Après avoir des justifications scientifiques sans preuve, nous avons entendu parler de ces chiffres, 200, 400 000 victimes, etc. Donc, tout cela, c'était les chiffres présentés par les mass-médias qui ne voulaient que de faire un effet négatif sur son auditoire. Ce qui s'est passé dans les autres parties du monde n'a pas été reflété par les mass-médias comme le conflit à Soudan. Donc, est la catastrophe humanitaire réelle? Ce problème n'a pas été réglé. Donc, ici aujourd'hui, on demande qui connaît le nombre total de ceux qui sont morts en Irak. Je dirais qu'il s'agit d'un million et le nombre des personnes déplacées serait de 4 millions. Donc, et la vie en Irak avant la dernière guerre, donc cela est oublié. Maintenant, il se trouve dans le cauchemar de la guerre et des privations. Et nous savons que les États-Unis et tous les pays de l'OTAN envoient leurs troupes dans la région irakienne en Afghanistan pour éviter la discussion de la stratégie qui a lieu actuellement au Soudan. Et je pense qu'il s'agit là d'une des guerres les plus amorales dans l'histoire de l'humanité. Donc, il s'agit de sauver le peuple du pays, d'une part, et d'autre part, tous les rapporteurs disent que nous faisons tous des efforts pour atteindre conciliation entre le nord et le sud du Soudan, parce qu'il est vrai que le temps est venu quand il faut mettre fin au conflit à Darfour. Donc, tout d'abord, il faut accorder des principes pour ce processus, parce que il faut préserver la paix et l'ordre dans le pays. Et si quelqu'un organise des attaques, qu'est-ce que doit faire le gouvernement par rapport à leur société? Donc, peut-être c'est la fonction la plus importante de l'État, de protéger sa population. Et justement, c'est ce que le gouvernement fait. Notre gouvernement a toujours respecté ses obligations vis-à-vis des citoyens du pays. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens qui se sont donné le droit de combattre, de faire la guerre contre tout pays au monde en jetant un défi à la sécurité nationale d'un pays, ils ne comprendront jamais ce que nous voulons protéger. Nous voulons protéger nos citoyens dans notre propre pays. Ils ont pu faire ça en Afghanistan. Donc, il y a eu autant de troupes et nous ne devons pas permettre la même chose au Soudan. C'est pour ça qu'au Soudan, nous avons eu les mains liées et actuellement, tout le monde est au courant des attentats terroristes. Là, je parle des enlèvements des représentants des missions étrangères au Soudan. Nous nions pas notre responsabilité pour ce qui se passe. Et actuellement, cela est une question très importante parce que les victimes, ce sont les Africains, les Pakistanais, les Européens. Donc, et si ce n'est pas les étrangers qui deviennent les victimes ou bien les Soudanais, alors c'est quoi? C'est le crime qui n'est pas si grave que ça? Non, pas du tout. Nous pensons que l'obligation principale du gouvernement, l'engagement principal du gouvernement doit être respecté dans toute situation. Et tout ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est juste d'essayer de dire à tous ce que nous pouvons faire afin de parer de telles attaques, de tels attentats. Et je voudrais répéter encore une fois ce qui vient d'être dit par mes collègues, c'est que Soudan voudrait respecter toutes ses obligations dans le cadre de l'accord universel de la paix. Et maintenant, quand il s'agit des problèmes concernant l'application de cet accord universel de la paix, je voudrais dire que nous essayons nous-mêmes de prouver à nos collègues qu'il faut accélérer le processus de règlement pacifique au Soudan. Et puis, si nous parlons du recensement de la population, qui a organisé le dernier recensement? Cela a été fait sans... donc, les résultats de ce recensement n'ont pas plu. C'est pour ça que nous voudrions appeler la communauté internationale d'appeler, de faire les autorités soudanaises à croire la légitimité de ce recensement. Voilà, ce sont des questions que nous devons accorder tous ensemble. Et nous devons nous mettre d'accord sur ce que le Soudan a besoin de la communauté internationale pour qu'il favorise l'application de cet accord universel de la paix. On m'a dit que mon temps est expiré. Bon, nous, les Soudanais, nous croyons toujours dans l'avenir. Donc, nous remercions la communauté internationale. Et comme ça vient d'être déjà dit ici, nous n'avons pas besoin de l'aide de la Cour pénale internationale. On est un pays souverain, donc il ne faut pas travailler avec le tribunal pénal international. Merci. Merci beaucoup, M. Moudavi. Donc, je dois protéger les intérêts de tous les intervenants, de tous les rapporteurs. Donc, et c'est très difficile de limiter le temps des représentants du Soudan parce que la conférence est consacrée à ce pays. Et bien sûr, leurs interventions sont surtout intéressantes. Merci pour votre compréhension. Donc, et maintenant, je voudrais donner la parole à M. Ceylan, l'ambassadeur plénitentiaire extraordinaire de la Turquie au Soudan. Organisez les présentations, s'il vous plaît.
Chairman, thank you very much for giving me the floor.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je demande pardon devant le Premier. J'essaierai d'être le plus bref possible. Donc, et si vous trouvez que je parle trop longtemps, alors ça va être la conséquence d'un très bon repas qui a été servi par les collègues russes. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut du développement moderne pour l'organisation de cette conférence. Plus de 400 ans, la Russie a des relations avec ce pays. Je voudrais aussi remercier M. Mikhail Margelov, que j'ai rencontré quand il était venu à Khartoum en tant que représentant spécial de la Fédération de Russie sur Soudan. Donc, merci beaucoup pour votre soutien pour essayer de trouver la solution de la crise soudanaise. Et je voudrais souligner également tous les speakers qui sont au présidium et les autres participateurs du processus. Donc, j'espère que cette conférence du Soudan consacrée à la crise au Darfour essaieront de refléter certains aspects de la crise qui ne sont pas encore explorés. Je pense que vous savez que la Turquie a une longue histoire de relations avec le Soudan à partir du XVIe siècle. Et compte tenu ces relations, notre longue histoire, je voudrais dire que la Turquie a toujours suivi les événements au Soudan parce que l'histoire de nos deux États a eu pas mal de choses en commun. Et donc, où et comment qu'on discute les questions concernant le Soudan? Presque quatre ans, j'ai travaillé en tant que l'ambassadeur turc à Soudan et bien sûr, j'ai lu, j'ai analysé de différents documents, ouvrages analytiques, articles scientifiques et il existe plusieurs opinions, mais quand même il y a eu l'opinion commune sur ce qu'est-ce que ça veut dire la crise au Soudan. Le Nigeria, le Tchad et l'Ouganda au sud, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Somalie à l'est, la société soudanaise en entourage des pays voisins a heurté aux problèmes qui sont dispersés sur tout le continent africain. Mais ici, quand même, il y a une façade intérieure de la crise. Donc, il faut travailler en utilisant les méthodes locaux. Les aspects régionaux de ce conflit, c'est une des forces principales qui nécessite une attention permanente. Plusieurs sont d'accord sur ce que certains groupements de lobbying essaient de comprendre et d'analyser le sens du conflit, mais ils perdent de vue la réalité cruelle. Donc, et ils ne sont pas déçus quand ils observent les événements qui ont lieu. Et je pense qu'il est très important de prendre et d'élargir les activités du maintien de la paix. Et cela doit être fait au niveau national. Et cela nécessite un support, un soutien de la part de la communauté internationale. Le 27 mai 2009, à Doha, il y a eu les négociations avec la participation du Soudan, de la communauté mondiale. Donc, et la crise au Soudan a été aussi discutée pendant plusieurs conférences, séminaires, etc., et pendant une longue période de temps. Et nous pouvons trouver une multitude de décisions qui ont été adoptées pendant ces années en vue de surmonter la crise au Soudan. Il y a de différentes initiatives, de différentes décisions qui ont été développées suite à ce travail. Et à l'étape actuelle, les résultats ne sont pas considérables et notre problème consiste au manque d'un bon sens concernant le problème soudanais. Ici, je veux dire que nous avons besoin d'une stratégie coordonnée qui pourrait lier toutes les données appropriées. Il n'y a pas longtemps, j'ai observé l'apparition d'une telle approche coopérative qui, comme je pense, doit exister dans la nature. Et avec mon respect envers les efforts régionaux, je ne peux pas ne pas avoir de doute. Ces mesures visent la paix. Elles sont prises afin d'équilibrer la concurrence entre la justice et l'égalité, les droits égaux. Donc, et tout cela est pour ajouter les efforts pacifiques entrepris par les partis. Et bien sûr, on ne peut pas perdre de vue le conflit des intérêts, le doublement des intérêts, donc le chevauchement des intérêts plutôt. Bien sûr, on peut contester que le processus du rétablissement de la paix peut être contrôlé de la part des pays africains. Alors, dans ce cas-là, cela veut dire que c'est un phénomène très important. Il ne faut pas oublier le principe fondamental de la solution des conflits. Nous devons nous souvenir de toute la gamme des décisions, des résolutions. Donc, tous les documents détaillés, y compris de quoi on a besoin pour la construction. Donc, nous devons nous poser la question, est-ce que nos efforts sont suffisants? Les efforts pour ce qui concerne l'accélération, le processus du rétablissement de la paix en Afrique. Et nous devons ne pas oublier qu'il n'y a pas un tel pays qui pourrait contribuer à une rapide solution du problème au Soudan. Et justement, pour cette raison, pour nous, la participation des États-Unis est très importante. Actuellement, il y a des mesures très intenses qui sont prises. Voilà, j'ai pris une citation du rapport de la Commission de l'Union africaine qui dit le 31 août, aucun facteur interne n'a contribué davantage à part la séparation des familles. Donc, à cause de cela, plusieurs femmes ont perdu leurs enfants, leurs maris. Et en plus, il s'agit là des crimes contre l'humanité, contre l'espoir, contre le sens de la dignité humaine. Donc, ces observations ont été faites en 1993. Donc, si l'on parle de mon pays, notre position dépend du sommet turco-africain qui ont eu lieu en 2008, entre le 18 jusqu'à 26 août 2008. Et alors, d'ailleurs, là, on a souligné que les relations de la Turquie envers l'Afrique sera caractérisée par le respect des principes. Donc, nous avons cinq principes principaux de la coopération commune et nous avons également le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que la disposition qui dit que on ne peut pas violer l'interdiction de la juridiction. En plus, l'attitude de la Turquie et l'expérience de la Turquie concernant le règlement de la catastrophe humanitaire au Soudan, nous essayons de régler les problèmes des conséquences, des anciens problèmes, mais en même temps, ces activités ne doivent pas être limitées et ne doivent pas être réduites uniquement à quelques projets. Bien sûr, le projet et le travail des organisations non gouvernementales doivent revêtir un caractère plus universel et doivent aider à réintégrer les gens dans la société pour rétablir leur vie. Et c'est le sujet principal, c'est un des sujets principaux dans le travail de l'organisation internationale turque qui s'appelle TIKA. Donc, TICA a des représentations dans plusieurs pays, pas seulement à Moscou. Donc, et je voudrais vous donner quelques exemples. Par exemple, en Turquie, en 2006, nous avons eu des programmes de formation. Nous pensons que cela est très important pour soutenir une approche saine envers la culture physique. En plus, les ONG turques ont proposé l'assistance médicale gratuite qui est devenue pour l'instant un hôpital permanent. Et maintenant, ces locaux sont outils utilisés pour l'éducation et la formation des spécialistes à Darfour. Ou, par exemple, voilà, regardez cet hôpital. Donc, il y a trois divisions qui ont été rénovées. En plus, vous voyez ici un modèle, un projet à Darfour. Donc, ici, vous voyez l'infrastructure. Donc, les conditions physiques dont nous avons besoin sont indiquées. Donc, les conditions pour les habitants. Donc, ici, nous voyons qu'il s'agit non pas seulement de ce modèle, mais de ce que nous devons travailler d'une façon plus exacte afin d'assurer les conditions pour les retours des personnes déplacées. Et maintenant, je voudrais faire quelques conclusions. Je ne veux pas donner une recette, donc une prescription toute faite pour toutes les crises, mais j'ai une proposition qui peut faire une contribution à ce processus pacifique qui continue. Je pense qu'actuellement, il est très important de créer les conditions pour la paix d'ici l'année 2010-2011. Et je pense que cette possibilité doit être sauvegardée. Donc, et sans tarder, les priorités doivent être données au dialogue de Darfour. Le Darfour, avec l'utilisation des modalités bien simples. Donc, cela veut dire le travail avec les chefs des tribus, des avocats, conseillers sur place, etc., etc. Donc, voilà, c'est ma vision de la société civile à Darfour, parce qu'il faut avoir une compréhension claire de quoi est-ce que nous parlons. Comment doit être organisée cette société civile au Darfour? Et vous savez qu'à la fin du mois, nous allons continuer les négociations. Donc, il faut les élargir, il faut les encourager et il faut appliquer en pratique les dispositions de la mission importante.
Le mécanisme tripartite qui a été mis en place grâce aux efforts de M. Scott Tessen est fondé sur le principe de la réalisation des référendums au Sud et la lutte pacifique pour le pouvoir. Ensuite, si nous allons plus loin, si on parle des efforts de M. Massoli, ce sont aussi les efforts très importants du maintien de la paix qui sont appuyés par tous les participants au processus. Et la dernière chose, actuellement, sont en il est évident que toutes les forces intéressées doivent participer au processus. Un monitorat plus efficace doit être mis en place au niveau intergouvernemental entre les deux pays. En plus, vous connaissez les négociations entre Mambékien et d'autres parties intéressées qui doivent aussi être appuyées. Nous devons augmenter et déployer les perspectives de la réalisation de la paix et du progrès au Soudan. Et à l'ONU, au Conseil de sécurité, il y a aussi la compréhension. La compréhension existe de ce qu'il faut faire dans une pareille situation. actuellement pour harmoniser et renforcer les initiatives locales, il faut des grands efforts. Excusez-moi, mon temps est expiré, mais pour finir, je veux dire que n'importe quelle initiative visant la paix au Soudan doit être appuyée et organisée, soutenue. Ensuite, la structure, notre structure, elle est très nette et claire, fondée sur la consultation avec toutes les parties intéressées. Vous savez, si on parle de complexité, moi je ne suis pas une personne simple, mais si on parle de la multilatérale, de travail multilatéral, je crois que il n'est pas nécessaire d'inventer la roue. Il faut juste atteler notre cheval. Merci. Monsieur Stefano Mantecoro, ministère des Affaires étrangères de l'Italie. Bonjour. Nous avons écouté beaucoup des interventions de la part de l'Union européenne. Permettez-moi de me joindre et remerciements au président, M. Margelov, et au comité de coordination. Nous voyons ici les efforts de la communauté internationale de l'instauration de la paix et de la solution du conflit au Soudan. Nous sommes bien sûr du côté de la solution de ce conflit et nous soutenons pleinement les réalisations pratiques de l'accord sur la paix et les partis du Congrès national ensemble avec le peuple soudanais et le mouvement de libération sont responsables de la réalisation pratique des clauses de cet accord général. Il est important de bien voir le futur, l'avenir du Soudan, ainsi que de comprendre quels sont les pas à entreprendre dans cette direction. Aujourd'hui, nous avons écouté l'intervention des représentants du Soudan. Et je crois que leur point de vue peut être maintenu aussi. Les congrès nationaux, le congrès national est le parti de libération de Soudan, doivent réunir leurs forces dans cette activité. Mais actuellement, si les deux parties, ces deux parties-là, puissent s'entendre sur l'ordre à établir après 2011, ce serait très important car cela pourrait aider à mettre en place une ambiance, une atmosphère nécessaire effectivement pour la réalisation des clauses de l'accord, une ambiance vraiment nécessaire pour la réalisation du processus pacifique, le processus auquel doivent participer toutes les personnalités intéressées depuis les hommes politiques jusqu'aux partis politiques et il est très important aussi de savoir les racines du conflit et on se pose la question concernant la justice de la réalisation de ces situations. Actuellement, on essaie de réunir les fractions, les groupements, les mouvements différents par une participation juste à la vie politique du pays. Nous savons que le gouvernement du Soudan aura les idées tout à fait nettes sur la position que nous occupons. Nous voyons que l'Union européenne, l'ONU, soutiennent aussi ces efforts. Et aussi, il est nécessaire actuellement de résoudre la crise définitivement, ce qui est très important pour nous, naturellement, du point de vue réalisation des accords existants. Je crois que ces accords doivent normaliser, contribuer à normaliser le processus dans le pays. Donc, merci pour votre attention. Je voudrais tout d'abord remercier aussi le gouvernement de la Russie, M. Margulov en personne, pour la tenir cette conférence. Dans les 15 mois qui viennent au Soudan, on attend beaucoup de problèmes, on s'attend à beaucoup de problèmes qui demandent un travail énorme pour leur solution. Nous voyons actuellement que les jalons différents, les étapes différentes de l'évolution de la situation au Soudan se présentent devant nous. Nous voyons qu'il y a beaucoup de désordre encore dans le pays. Les activités de la milice aussi n'aident pas le rétablissement de la situation. On se demande si vraiment les élections en avril sont possibles et on se demande ce qu'il faut faire pour que ce soit possible, mais il est très important d'œuvrer pour une paix durable, et pour cela il est important de faire les deux choses suivantes. Tout d'abord, collaborer sur l'ordre du jour général concernant l'entretien avec le Soudan et le processus qui se réalise autour de ce pays. Il est important de ne pas oublier les liens intérieurs qui existent entre les conflits intérieurs soudanais. Autre chose, l'ordre du jour doit être assez flexible pour qu'on puisse investir dans la mise en place d'une nouvelle infrastructure. La solution du conflit de Darfour est très importante pour lui communiquer un caractère durable. Le processus de la démocratisation de ce pays est aussi très important. Les élections, ce n'est qu'une composante de ce processus. Mais je voudrais aussi parler en détail, en bref, le référendum. Je considère que le référendum est l'unique condition sans sine qua non de la solution de la situation. Si le référendum ne se réalise pas, cela voudrait signifier que nous revenons en arrière dans une période de guerre. Et j'espère que la loi sur le référendum sera décidée de manière rapide et juste, amicale même. Nous savons aussi que le référendum était une des choses les plus importantes. Nous voulons bien accélérer nos efforts dans le domaine d'assurance de la bonne réalisation de ce référendum. D'autre part, il n'est pas inévitable qu'un conflit puisse surgir. D'autre part, on peut limiter les risques du conflit par voie de propositions différentes. D'autre part, ces risques-là peuvent être mitigés par la solution de problèmes d'autres régions. Parmi les plus gros problèmes qui demandent la solution, je vois les ententes concernant les pipelines, les actifs et les passifs. Ensuite, le recensement de la population, il y a d'autres questions de même ordre qui sont importantes. On pourrait aussi contribuer à la mise en place des conditions acceptables, pour toutes les parties participant au conflit. L'histoire russe et soviétique récente nous donne une expérience précieuse qui est utilisable aussi qui est praticable aussi dans le cas du Soudan. La Russie, au moins, a trois grands accords. Tout d'abord, concernant les mêmes problèmes, Samara, Siassi et une autre pipeline, qui sont des ententes très importantes dans le domaine de la livraison de pétrole. On a dit aussi que les populations du sud et du nord du pays peuvent potentiellement Donc, ne pas souffrir une période aussi difficile dans l'histoire du pays, et on se demande aussi quelles sont les solutions dans ce cas-là. Il y a d'autres problèmes, comme par exemple les situations des diasporas, la diaspora russe dans le Soudan. Donc il y a d'autres groupes ethniques. Actuellement, par exemple, entre le Soudan et l'Égypte, on a vu signer 3 accords de sécurité. Si on parle du financement, beaucoup de choses ont changé dans le pays depuis 1999. Ce qu'on voudrait souligner aussi, c'est que l'armée de libération du Soudan possède des positions très fortes dans le pays. Ces exemples-là sont très proches des problèmes qui existent à l'intérieur du pays. Je voudrais dire aussi que la Russie fait son apport vraiment unique dans la solution de ce problème. La Chine a joué aussi un rôle important dans sa qualité d'investisseur. C'est un des plus grands exportateurs du pétrole de ce pays. Ils ont 11 sites sur lesquels les négociations vont être bientôt terminées. Si on passe aux pipelines, si on parle des pipelines, il y a 5 bonnes pratiques dans ce domaine-là. Tout d'abord, c'est bien sûr quand il y a un intéressement commercial, il y a les intérêts communs, mais il est difficile de venir effectivement bien peser les intérêts communs. Le gouvernement chinois a considéré l'APKIN 94 comme un des leviers essentiels pour la solution du problème dans le secteur pétrolier, pour le bien du pays, du nord et du sud du pays, et aussi pour le bien des investisseurs chinois. J'espère que les idées que je vous ai énoncées vous pourraient aider. Il est intéressant de réfléchir sur l'expérience russe pour la solution du Soudan. Monsieur Ghazi Soleiman, vice-président de l'Assemblée nationale de l'Assemblée législative du Soudan. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant pour la possibilité de participer à ce séminaire. Je crois qu'il est très important ici de parler de ce qui a été dit, de ne pas oublier ce qui a été dit par l'intervenant précédent qui est à ma gauche. Il a dit qu'il connaissait bien la situation au nord et au sud du pays. Il mérite bien d'être nommé consultant au problème du Soudan sud et nord. Si le Soudan du sud serait séparé du reste du pays, il serait très difficile de venir à une unité, à une solution. Nous allons œuvrer sans fatigue pour la préservation de l'intégrité et de l'unité de notre nation. Je voudrais m'en souvenir de Shakespeare, de sa tragédie Macbeth. Elle a été dit là-bas, advienne que pourra. Mais quand nous allons nous rencontrer encore une fois, voilà, ceci a été dit par Shakespeare. J'ai beaucoup d'estime envers la Russie, mais je voulais dire à mes amis russes qu'ils ont hérité un héritage énorme, lourd, depuis l'époque soviétique. Ils ont un enseignement magnifique. Ils avaient à l'époque soviétique un système gratuit de formation, d'enseignement. Vous avez dit que vous avez des amis en Afrique, mais vous avez des millions d'amis en Afrique qui sont vos filles et vos fils. Nous avons toujours été des vrais amis de la Russie. Nous avons été toujours fidèles à la Russie. Je suis revenu ici 40 ans passés, qui suis africain. Je suis invité, je ne paie pas mon hôtel, je ne paie pas mon transport, je ne paie pas la participation à cette conférence, je ne paie rien. Je suis sûr que la Nouvelle-Russie sera ensemble avec l'Afrique, elle va protéger nos droits. En parlant de Soudan, je voudrais vous dire que nous avons hérité cet état de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, jusqu'au mois de janvier 2005, quand nous avons signé l'accord de la paix, nous n'avons pas pu changer, transformer cet héritage, cet état, ce pays que nous avons hérité de la Grande-Bretagne. Mais cet accord a transformé notre pays. Nous avons divisé, nous avons partagé le pouvoir, nous avons partager les biens, les richesses, et nous nous sommes approchés de la solution historique des conflits. Les conflits, à mon avis, doivent être décidés et résolus que par la voie des négociations. Et selon la majorité d'Africains, cet accord sur la paix, accord universel, est un des accords plus importants dans l'histoire de toute l'Afrique. Nous avons fait cesser une des plus longues guerres en Afrique. C'est une réalisation importante. Je veux dire à tout le monde que nous voulons la paix, nous méritons la paix. Nous œuvrons sur l'instauration et la réalisation de cette paix. Nous sommes prêts à collaborer avec tous les pays, avec les Nations Unies, pour mettre en place dans notre pays une paix stable et durable. Notre lien avec toutes les forces internationales, la mission de l'ONU au Soudan, nous démontre que l'opinion publique mondiale est pour la paix. Et si la communauté mondiale veut aider le Soudan à réaliser, à instaurer la paix dans notre pays, au sud et au nord, dans notre pays, nous, bien sûr que nous sommes d'accord, nous sommes pour. Le problème consiste en ce que la situation a commencé, a été entamée comme problème local, et maintenant il a été pris en charge, disons, s'approprié par les mécanismes, par les organismes internationaux qui sont en train de la présenter comme un problème de l'envergure mondiale. Je répète encore une fois que nous sommes prêts à écouter toute proposition de toutes les parties intéressées concernant la solution du conflit. Nous avons accepté la dernière mission de la communauté mondiale quand la guerre a commencé avec le sud du pays. Maintenant, nous voulons passer encore un accord. Il y a 3 ans, nous avons passé l'accord de Darfour. Les Américains ont été témoins, les Britanniques aussi, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, tout le monde a été témoin de cet événement actuellement. L'accord de Darfour, l'accord de paix de Darfour est considéré comme inutile et oublié, mais tout le monde ne cesse pas de dire qu'il veut instaurer la paix au Darfour. Certains disent que nous devons normaliser nos relations avec le Tchad, mais nous n'avons pas de problème dans ces relations avec le Tchad. Nous sommes voisins et nous sommes frères. Mais comment on peut persuader la France dans cette réalité? Vous savez que je suis juriste. Les juristes aiment parler. Je suis juriste, je sais défendre mes clients. Mes clients, mes protégés actuellement sont les pauvres gens de Darfour. Je veux dire à tout le monde ici, Nous n'avons jamais eu, nous n'aurons jamais le problème avec Tchad. Nous sommes voisins, nous sommes frères, mais comment est-ce que le faire comprendre par la communauté mondiale? Je respecte ce qui a été dit par notre ami suédois. Il a dit que il a parlé des choses connues, des choses standards. Le maintien du process de l'instauration de la paix, des trois choses, l'élection, référendum et démarcation des frontières. Ce sont les trois problèmes, d'accord. Et ensuite, elle a dit qu'il fallait créer une ambiance, une atmosphère dans les situations qui pourraient amener la population au choix, à faire son choix et aux élections. Mais est-ce que ce ne serait pas la même ambiance qui est amenée à la situation qui est connue en Afghanistan? Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Vous vous souvenez ce qui a été fait par l'infanterie marine américaine? Mais cela a été qualifié comme ambiance propice pour les élections. Vous voulez qu'on fasse la même chose à Darfour, mais nous avons l'exemple de l'Afghanistan. Ensuite, le tribunal international, ce n'est pas une actualité, c'est une opinion, c'est une situation qui n'est pas acceptée en Afrique et dans le monde arabe. Et vous voulez que nous, on trahisse notre président, qu'on le livre au tribunal international, mais c'est enfantin. Même un enfant n'aurait pas demandé ça. Maintenant, notre participant, le collègue français, a parlé du problème de Darfour. Il a dit que c'était une crise humanitaire, un problème humanitaire. Et c'est pour cela que la France participait à la solution du conflit de Darfour. Je voudrais lui rappeler le congrès de Berlin. Le congrès de Berlin, il a... En 1884, est-ce que cela permet de s'ingérer aux affaires intérieures des pays africains? Ou bien on peut s'en souvenir de l'accord de Paris de 1899 sur la division des sphères d'influence dans les régions du Nil entre l'Angleterre et la France. Messieurs, j'accepte ce que vous avez dit, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème humanitaire, c'est un problème politique, et les ingérences qui se font sont purement politiques. Ensuite, encore une fois, quant au tribunal criminel international, je ne veux pas en être trop long, car nous, les Soudanais, nous ne permettrons jamais à aucun pays de violer notre constitution. Nous sommes prêts à protéger notre souveraineté. Et je vais faire une citation de la Bible. La justice va remporter. Il a été dit aussi que bientôt viendra le temps de payer. Celui qui fait bien, qu'il continue de faire bien. Celui qui ne fait pas bien, celui qui fait l'injustice, qu'il continue son injustice. Je viendrai bientôt. Et chacun aura ce qu'il mérite. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Merci pour votre attention. Donc la dernière personne à prendre la parole avant de s'arrêter pour une pause café sera Monsieur Proudfoot, directeur des départements des affaires internationales du Canada. Merci, monsieur le président. Je vais être bref. Monsieur Margueloff a qualifié notre conférence de scientifique et pratique. C'est très juste. Moi, dans ma remarque, je vais être plutôt empirique. Il a été dit que ce n'est que le Soudan, les Soudanais qui peuvent installer la paix au Soudan. Le rôle de la communauté mondiale, internationale, est important, mais il est secondaire. Mais naturellement, il est très important de le comprendre sous l'optique de la présence dans le pays des représentants des missions humanitaires, de l'Union européenne, de l'ONU, etc. etc. Nous savons qu'il y a eu des représentants des organisations internationales qui ont été kidnappés. Il y en a deux qui ont été libérés, mais le problème n'est pas encore résolu. Il n'y a pas longtemps, une personne a été tuée, plusieurs personnes ont été blessées. C'était le représentant de la mission mixte au Soudan. Le Canada est de plus en plus intéressé, inquiète par l'unité de Soudan. Je crois que l'unité, c'est la meilleure solution pour le Soudan. Nous avons vécu pas mal de menaces, nous avons sorti pas mal de leçons positives et négatives de l'expérience de l'histoire. Je voudrais parler de ces leçons. Nous considérons que le pays doit être réuni. Nous ne voyons pas de preuves empiriques et d'efforts réels pour conserver cette unité. Et le temps n'est plus... Le temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que c'est ce référendum concernant l'indépendance. Sans vouloir vexer personne, je voudrais dire que le référendum peut amener à la séparation. C'est un processus qui doit de toute façon amener à un voisinage pacifique. Même s'il y a une séparation, il faut que les territoires restent amis. Autre chose importante de savoir comment il faudra diviser le pouvoir dans le nouveau Soudan démocratique, qui, s'il sera tel, il est très important d'observer plutôt les intérêts de la population tout d'abord. Il est très important de diminuer les risques de l'apparition des conflits, des insurrections, des violences s'il n'y aura pas de séparation. Aujourd'hui, on a parlé du tribunal international et on a dit que le tribunal en question entrave le fonctionnement des organisations humanitaires au Darfour. Mais il faut comprendre que ce n'est pas le tribunal international qui a été à l'origine de ce que 13 organisations internationales non gouvernementales ont été pratiquement chassées du Soudan. Ce n'est pas le tribunal international qui attaque les associations, les représentants des associations internationales et qui fait le kidnapping de ses collaborateurs. On pourrait commencer une discussion philosophique, mais notre conférence est plutôt pratique, mais scientifique. Je vous propose de voir quelles sont les pas pratiques à entreprendre plutôt. Plutôt pratique de la part du Soudan, du Sud, du Nord et de la communauté internationale. Tout d'abord, c'est le déploiement d'une mission mixte de l'Union africaine et de l'ONU. Cela signifie aussi beaucoup de choses.
Donc l'application en pratique des dispositions, des accords et des traités conclus. Et en plus, il faut noter que le Canada a présenté des hélicoptères, des navires et d'autres équipements pour les opérations hybrides. Et encore, je voudrais appeler les autres pays industrialisés qui ne l'ont pas encore fait de penser comment soutenir financièrement nous pouvons soutenir le processus pacifique au Darfour. Nous pouvons intensifier notre dialogue avec de différents mouvements et assurer que tout ce que nous faisons soit conforme aux efforts qui sont pris par M. Jabril Bassolet, parce que tout cela vise le respect des droits de l'homme et le rétablissement au Soudan. Et comme a dit aujourd'hui Dr. Kazi, il est très important de respecter les arrangements, les accords. Donc, actuellement, nous avons 16h26 et à 16h36, nous allons commencer la réunion suivante pour que tous les rapporteurs aient le temps. Merci de votre attention.
My pardon, honorable guests, I would like to make one more announce, if some of you like.
Encore une annonce, si vous voulez faire des rapports demain, n'hésitez pas et inscrivez-vous à la réception. Merci beaucoup de votre attention.
Gentlemen, last minute call for all the participants. The plane is taking off.